Bonjour, qui est Charlie ? Ou bien, qui est Charlie ? Vaste question qui a soulevé un tourbillon intello, politico, médiatique ces trois dernières semaines à propos du livre ainsi titré d'Emmanuel Todd, historien, démographe et un peu prophète sur les bords, avec qui nous allons revenir dans cette émission, à la fois sur son livre et sur la réception, on va dire, agitée de ce livre. Alors, on va revenir sur tout ça en détail, en passant en revue tous vos passages médiatiques et les articles consacrés à votre livre, et Dieu sait s'ils ont été nombreux. Mais avant, j'ai une première question. Quand je vous ai appelé pour vous inviter, vous m'avez expliqué que vous étiez très très désireux de venir à Arrêt sur Image, ce qui, je dois le dire, m'arrivera assez rarement avec mes invités. Et c'était avant la sortie du livre, donc avant le tourbillon. Est-ce que c'est parce que vous pressentiez déjà ce qui allait arriver?
Oui, enfin, il y avait déjà pas mal de bordel, et je trouvais que le concept d'Arrêt sur Image, de faire le point, de boucler en un sens, je veux dire, en réfléchissant sur la sortie du livre lui-même, je pensais qu'Arrêt sur Image était l'endroit idéal. Le débat donc, n'est pas fini sur le livre, ensuite il y aura tout ça. Mais en ce qui concerne la sortie, et donc je pensais, parce que le
donc le prophète Todd avait prévu le bordel.
Ah non, quand on en avait parlé, c'était déjà pas mal lancé. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est… Mais même sur le plan des principes, prévu le bordel, non.
À ce niveau-là, non.
Non, c'est d'ailleurs en soi… Je dirais que ce niveau de bordel ne peut que rendre modeste. C'est-à-dire que pour moi, il est complètement évident que ce qui se passe dépasse le livre, que le livre correspondait à une attente. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'une attente de quoi ? Une attente de rupture du consensus sur l'histoire Charlie, sur l'unanimité. Donc, je pourrais dire à la rigueur toute cette agitation vérifie la thèse du livre qu'il y a eu un flash totalitaire et un moment d'étouffement de la liberté de parole à l'époque. Donc ça vérifie une des thèses du livre, mais ça ne prouve pas en soi que le livre est formidable.
Alors, on va parler évidemment de la réception du livre, mais on est quand même un tout petit peu obligé de parler, de commencer par parler un peu du livre pour que les quelques abonnés qui n'en ont jamais entendu parler sachent un peu de quoi il va être question dans cette émission. Alors, dans toutes les émissions dans lesquelles vous êtes passé, vous avez raconté la genèse du livre. Et la genèse du livre, c'est le 12 janvier, quand vous découvrez la carte des manifestations du 11 janvier dans Libération. Alors, cette histoire-là, vous l'avez racontée partout. Cette carte du 11 janvier, du 12 janvier, on l'a jamais vue à la télé, donc la voici. Alors, je voudrais qu'on la regarde en détail. Je voudrais que vous vous replongiez dans votre état d'esprit du 12 janvier. Vous ouvrez le journal, vous voyez ça, et qu'est-ce que cette carte vous dit ?
Je vois tout de suite l'opposition des cercles sur Lyon et Marseille.
Ça c'est la première chose que vous regardez ?
C'est-à-dire, quand on est habitué à faire des cartes de France, quand on a en tête la géographie culturelle de la France… Et cette carte qui est partout dans mon travail et dans la science politique française antérieure, c'est-à-dire la carte de la France laïque et de la France catholique, on sait bien que…
– En gros, France laïque, Marseille, France catholique, Lyon, en schématisant beaucoup.
– Oui, mais là, ce sont des métropoles, je veux dire, ce sont les métropoles régionales. La carte complète, c'est tout le bassin parisien.
Donc c'est Adèle Bello qui est en train de zoomer sur la carte.
– Voilà, donc en fait, tout un grand bassin parisien, d'ailleurs, vous voyez, avec sont assez faibles. C'est-à-dire, vous voyez à l'œil que les points sont petits. Enfin, je ne sais pas comment dire.
Le bassin parisien, je vois qu'il y a beaucoup de manifestants.
Il y a Paris. Il faudra parler de Paris tout à l'heure. Mais disons, vous me demandez, du travail.
Excusez-moi, vous distinguez Paris, bassin parisien.
Oui, bien sûr, évidemment. D'accord. Donc, la distinction. Lyon, est-ce que vous pouvez remettre sur Lyon-Marseille?
Bien sûr, ça arrive.
Quand même. Donc, vous voyez bien que Lyon-Marseille. On sait que les deux villes, les deux métropoles ont à peu près le même genre de population. Donc on n'a pas besoin de faire tout de suite une division pour ramener à la population. On voit 300 000 à Lyon et on voit 45 plus 30 à Aix-Marseille. On est à des niveaux de mobilité, ou 70-45 à Aix-Marseille. On est à niveau du simple au double. Et ça alerte, je dirais, à la carte standard de la géographie politico-religieuse de la France. C'est une carte qui est, c'était la carte standard de Sciences Po. Ces derniers temps, j'ai plutôt dit que c'était dans mes recherches. la France laïque, la France catholique. Mais comme depuis, j'ai été attaqué sauvagement et bêtement et maladroitement par des gens du CEVIPOF, du Centre d'études de la vie politique française, ces gens semblent avoir oublié que la division de la France entre une partie déchristianisée, ancienne, qui comprend un immense bassin parisien qui va de Laon jusqu'à Bordeaux, et puis la façade méditerranéenne, et puis des pôles...
Un bassin parisien qui va de Laon jusqu'à Bordeaux?
Oui, je dis un immense bassin parisien.
C'est-à-dire de Laon jusqu'à Bordeaux?
Jusqu'à élargi, si vous voulez. Élargi. Ouais. Je veux dire, je simplifie. Je dis le cœur et le bassin parisien, mais je dis élargi jusqu'à Bordeaux. Vous le voyez d'ailleurs à l'œil là.
Mais, alors, attendez, excusez-moi. Oui. Comment on voit l'homogénéité là, d'un grand bassin parisien entre Laon et Bordeaux?
Vous me demandez... Comment je rentre dans le processus de travail? Donc, d'abord, je vois cette carte. Je vois l'opposition de Lyon et de Marseille. Je sais a priori qu'elle est significative et que toute la science politique française des années 1913 c'est-à-dire d'André Siegfried à François Goguel, la première chose qu'on regardait, c'était les zones catholiques qui votaient à droite, périphérie, les Pyrénées-Atlantiques, le sud et l'est du Massif central, la région Rhône-Alpes, c'est un petit peu plus compliqué, et puis l'est avec l'Alsace et la Lorraine, et puis avec un nord qui est un peu plus compliqué, traversé de courants contradictoires. C'est une carte standard, en fait, en sciences politiques. André Siegfried avait noté en 1913, dans un bouquin qui est une sorte de classique, pour moi, c'est l'une de mes bibles, en fait, ça s'appelle « Tableau politique de l'Ouest sous la Troisième République », et en fait, c'était le premier qui avait compris que la République n'allait pas conquérir l'Ouest, en fait, que le catholicisme et l'Église allaient continuer de dominer l'Ouest, qu'il n'y avait aucun progrès de l'idéal républicain à la date où il a publié, en 1913, et bien entendu, l'Ouest n'est que, je dirais, l'endroit archétypal. Lyon serait un autre endroit. D'accord. Et une fois qu'on a vu ça, que j'allais retrouver cette vieille carte.
Parce que ce qui vous apparaît tout de suite quand vous regardez cette carte du 12 janvier, c'est cette carte de 1913.
C'est 1913, il n'y a que l'Ouest. Mais carte standard de la science politique française, c'est-à-dire que les bastions de la droite conservatrice, les bastions du MRP, les bastions de Giscard, tout ça, il y a une sorte de tréfonds catholique régional qui était les régions.
Et ce qui vous apparaît, pour être clair, c'est qu'on a énormément plus manifesté dans ces zones-là que dans les zones.
Voilà. Alors, pour le faire, il faut ensuite rapporter les nombres de manifestants à la population de toutes les agglomérations. Il y a un travail statistique qui est dans le bouquin. On obtient des indices, on obtient des cartes, et on compare ces cartes, et on tombe dans une géographie connue, et on voit que, hors Paris, dont il faudra reparler en détail, et dont je parle en détail de façon très nuancée dans le bouquin, hors Paris, il y a eu une surreprésentation en moyenne du simple au double, c'est-à-dire que les régions que j'appelle catholiques zombies, c'est-à-dire qui ont été catholiques jusqu'en 1960 et qui viennent de perdre la foi et la pratique, ont été surmobilisés. Et donc immédiatement, vous avez là, comment dire, une sorte d'interrogation, de truc bizarre, parce que c'est les régions qui ont résisté à la liberté et à l'égalité, c'est les régions qui ont résisté à la République.
– Alors je ne sais pas, c'est des objections qui viennent simplement en regardant la carte, Toulouse, ville Ratsoc, laïque, Jean-Michel Baylet, beaucoup manifesté.
– Alors là, avec Toulouse, vous avez pour l'essentiel la deuxième variable explicative. La deuxième variable explicative de cette carte, c'est la proportion de classe moyenne et spécialement de cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population. Et donc, les métropoles régionales sont aussi surreprésentées parce que c'est là que sont les cadres et professions intellectuelles supérieures. Et en fait, Toulouse, est après Paris sans doute la ville où la proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures est la plus grande. D'autre part, la région toulousaine n'est que semi-déchristianisée.
D'accord. Alors, si je me souviens, ça aurait aussi dû jouer pour Marseille.
Comment ?
Cette explication métropole régionale.
Non, d'abord.
Et elle ne joue pas pour Marseille.
Et bien, dans ce cas-là, d'abord, il y a un peu moins de... C'est ça l'analyse statistique. Ouais. C'est-à-dire, il y a un peu moins de cadres, et là, l'effet laïcité ancienne a été plus puissant. Ça s'analyse, le cœur du livre, c'est une analyse statistique, ce qu'on appelle une régression multiple, dans laquelle on met, je dirais, tous les facteurs explicatifs ensemble, on vérifie leur indépendance relative les uns vis-à-vis des autres, et on obtient, ce qu'on appelle une variance expliquée globale, C'est-à-dire, et au terme de cette analyse, je passe sur les stades, on aboutit à l'explication de la moitié de la variance. Donc il n'y a aucune privation de liberté humaine.
On va y revenir sur la. La liberté humaine, on va y revenir. Voilà. Juste une dernière question sur cette carte, parce qu'on nous l'a posée dans le forum. Saint-Étienne, ville ouvrière par excellence, forte manifestation.
Écoutez.
Et on a des Stéphanois dans le forum qui nous ont dit qu'est-ce que c'est que
ça. Alors, j'ai pas mal de questions sur des lieux, des gens qui me disent moi, je n'ai pas de réponse précise pour Saint-Étienne, mais il faut comprendre ce qu'est l'analyse statistique. L'analyse statistique, c'est une synthèse qui n'a pas la prétention de dire ce que chaque ville est. Et d'ailleurs, en fait, au départ de cette analyse, j'ai pris les cartes du journal Libération, en fait les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus les erreurs peut-être dues au bordel traditionnel de Libération, je n'en sais rien. Et ce que je dis au début du livre, c'est juste pas possible que tous ces chiffres soient exacts. Ça a été calculé dans la journée. Donc il y a énormément d'erreurs dans les chiffres.
– Mais sinon, Saint-Étienne, pour rassurer les Stéphanois, Saint-Étienne, vous la classez plutôt dans ce que vous appelez les zones périphériques…
– Saint-Étienne, dans cette partie, ça va être plutôt zombicato, oui. – Mais vous allez avoir un affrontement titanesque du zombie catholicisme et puis d'une empreinte ouvrière quand même. Vous voyez, c'est un peu… Mais ce qui est très important de voir, c'est que l'imperfection des données renforce la signification de l'étude. C'est-à-dire que si, avec des données pourries, vous atteignez des coefficients de corrélation de 0,4, le maximum serait 1. 0,4, c'est pas monstrueux. Encore une fois, il y a de la liberté humaine. Mais ça veut dire que vous êtes, avec des données exactes, vous auriez été beaucoup plus haut. Donc ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que des chiffres ramassés à la hâte, par des gens, des renseignements généraux, dont certains avaient un coup dans le nez, ou certains ont fait leur travail d'une façon qui resterait à vérifier, que ça donne quand même une carte qui a une signification. C'est ça qui est tout à fait étonnant.
– Bon, alors, dès que sortent les premières interviews dans lesquelles vous parlez de votre livre, et avant même que le livre arrive d'ailleurs, et alors ça se renforce quand le livre arrive et est lu, donc maelstrom de critiques sur votre méthode, sur vos conclusions, on va pas toutes les citer, on a fait simplement un petit montage.
L'après Charlie qui fait débat aussi en France, vous l'avez dit, le livre évidemment d'Emmanuel Todd, ce géographe sociologue, il a dit plusieurs choses. Il a dit le 11 janvier, c'était un tour de passe, une imposture à propos de ces rassemblements. On a fait dans le pathos, on est égoïste, inégalitaire à ce moment-là. Il a encore dit, c'est le seul moment de ma vie où j'ai eu l'impression que ce n'était pas possible de parler en France. J'ai vécu ce moment comme un flash totalitaire. Voilà. Aujourd'hui, vous en riez, mais...
Oui, mais je crois que je préfère répondre à Bouba, en fait. Je comprends pas comment on peut s'abriter derrière un statut scientifique pour dire des énormités pareilles. Vraiment, d'abord, la méthodologie d'Emmanuel Todd qui porte que sur la moitié des manifestants, on est d'accord, puisque la moitié était à Paris, l'autre moitié, c'est celle qu'il analyse avec des... Il lit dans les cartes, hein, Emmanuel Todd, il lit dans des cartes régionales qui analysent les slogans de gens qui descendent dans la rue à partir de ce qu'ont fait leurs grands-parents et de s'ils sont plus ou moins des christianisés. On est quand même là à la limite de l'imposture scientifique, mais en plus c'est une insulte envers tous ces marcheurs individuellement qui sont descendus avec un message de fraternité, de tendresse, et on voit bien qu'Emmanuel Todd n'était pas dans cette manifestation. Et en tout cas, c'est pas à un intellectuel de dire ce pourquoi les gens marchent quand ils ont des pancartes qui le disent clairement.
J'ai ressenti, j'allais dire quasiment physiquement, en le lisant, en le voyant, une sorte d'angoisse qui le prend, et pas lui seulement, d'autres intellectuels qui sont travaillés par cette angoisse du futur qu'ils n'arrivent pas à imaginer. Et alors enfin, ils sont porteurs de ces sentiments de haine de soi, de pessimisme, de déclinisme fondamental.
L'Obs avait fait une couverture sur Charlie. Continuons le combat. Quatre mois après, il déroule le tapis rouge devant quelqu'un qui écrit « Des millions de Français se sont précipités dans les rues pour définir comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles ». Donc moi je veux bien que l'ancien journal des idées devienne un magazine de mode, mais pousser les responsabilités, si vous voulez, jusque-là, jusqu'à cette manière de faire des scoops et de changer du tout au tout en 4 mois, c'est saisissant. ce livre et cette interview chient sur la tête des lecteurs de l'Obs, parce que précisément, ils ont dit « je suis Charlie » et on leur dit « bah non, quand vous disiez « je suis Charlie », en fait, ça voulait dire « je suis raciste », j'espère qu'ils sauront réagir et qu'ils protesteront, parce que ce serait sinon à désespérer de tout. »
Alors, je pense que vous avez reconnu les intervenants, Caroline Fourest, Jean-Marie Le Guen, ministre, Alain Finkielkraut, essayiste, philosophe, académicien, Caroline Fourest, essayiste aussi. Alors, on va revenir sur tous ces arguments.
Je peux faire une confession.
Allez-y.
Je suis un fan des Inconnus, dont je regarde les sketchs quand je m'embête chez moi et que j'ai trop travaillé. Et maintenant, je remplace par les sketchs de Finkielkraut tout seul. Je m'amuse énormément à le regarder parler. Vraiment, il y a un élément comique. Indiscutable quand on est un chercheur en sciences sociales.
D'accord. Alors, on va répondre quand même aux arguments qui sont donnés un par un. Alors, pour vous éviter de répondre ici ce que vous avez déjà répondu ailleurs, on a fait un petit montage de ce qui me semble être votre réponse à ce que dit Fourest au début, c'est-à-dire tous les marcheurs se sont sentis insultés, tous les marcheurs du 11 janvier se sont sentis insultés par le livre de Todd. Alors, voilà, me semble-t-il, la manière dont vous y avez répondu.
On a d'abord envie de vous demander, Emmanuel Todd, vous avez croisé des gens qui ont manifesté le 11 janvier, vous leur avez parlé, vous les avez interrogés?
Je vis au milieu d'eux, c'est-à-dire je parle aussi d'une expérience. Moi, je ne suis pas allé manifester, je connais ces gens, je vis dans un milieu de centre-gauche. Et donc, je veux dire, en première analyse, en première approche, et il me semble que je le dis dans le bouquin aussi, ces gens sont sympas, il n'y a pas de problème. À toutes sortes de niveaux, c'est des gens comme moi. Ce que j'ai ressenti, c'est des classes moyennes. Mais c'est des gens sympas, c'est des gens autour de moi. Je veux dire, à la limite, c'est presque moi, d'une certaine manière.
C'est vrai qu'il y avait des tas de gens sympas dans la foule. En plus, de toute façon, c'est forcé, c'est mon milieu. Je veux dire, je dénonce les classes moyennes, mais je veux dire, je suis une caricature de petit français des classes moyennes.
Tout autour de soi, dans ces classes moyennes auxquelles j'appartiens, c'est mon milieu, je le connais. Vous avez ces gens qui sont sympas. C'est mon monde, c'est autour de moi. Bon, moi, vous voyez, bon.
Rassurez-vous. Ma vie est très paisible, je suis très entouré de plein de Français qui m'aiment.
J'avais plein de copains dans cette manifestation, ne vous faites aucun souci. Dans ces classes moyennes ou moyennes supérieures auxquelles j'appartiens, c'est pas la peine de le nier, les réactions étaient... J'ai entendu une chose que je n'ai jamais entendue de ma vie, je veux dire, tu parles comme ça, alors, apologie du terrorisme, et tu n'es pas un vrai Français.
C'était une parade ?
Non, tout est vrai. Alors évidemment, ça produit un effet de comique de répétition. Peut-être que c'est moi-même. Dans la catégorie sketch des inconnus.
C'est nos inconnus à nous.
Voilà, c'est ça. Chacun son tour d'être mis en boîte. Mais on peut pas. Je veux dire, ça serait assez inquiétant si un type se balade sur les plateaux de télévision en disant chaque fois des choses différentes. Il faut l'admettre.
C'est vrai. Ça nous amuserait aussi d'ailleurs.
Alors, je crois que finalement. C'est un exercice qu'il faut faire pour rassurer les gens et pour montrer sa bienveillance, mais il faut revenir quand même au cœur du problème. C'est-à-dire que ce débat sur sont-ils gentils, sont-ils méchants, c'est pas vraiment mon problème. Moi, ce que je dis dans ce bouquin, c'est qu'il faut passer de l'émotion et de la perception affective à ce qu'on appelle l'analyse sociologique. Et moi, je suis un élève dans ce domaine d'Émile Durkheim, je le dis au début du livre. Et justement, ce que dit la sociologie quand elle naît scientifique, c'est-à-dire avec Durkheim, avec l'analyse statistique, c'est que c'est l'époque des débuts de la psychanalyse aussi. C'est le mot inconscient est dans tous les sens sociaux, même chez des gens comme Gabriel de Tarde. Les gens ont compris à ce moment-là. C'était peut-être la fin de la croyance un peu simpliste en l'homme des Lumières, l'homme complètement conscient. Et donc c'est le moment où la sociologie, c'est le moment où on a découvert les forces obscures, l'inconscient, qu'on ne savait pas très bien.
Voilà. Excusez-moi, mais ceux qui découvrent l'inconscient, ce n'est pas la sociologie, c'est la psychanalyse qui découvre l'inconscient.
Mais je suis en train de vous dire que non, en fait, quand on regarde, ce n'est pas vrai, il y a tout un mouvement. Freud, maintenant c'est ce qu'on croit, mais si vous lisez des textes de Durkheim ou de Gabriel de Tarde, qui lui a été plutôt oublié, la notion d'inconscient est partout.
Qui sont antérieurs à Freud.
Écoutez, ça se superpose en fait en termes de trucs. C'est plutôt avant, mais il y a un moment, et peut-être d'ailleurs, il faudrait regarder, peut-être que le concept d'inconscient est apparu en sociologie avant.
C'est important. Mais vous pouvez dire que le concept d'inconscient est apparu en sociologie avant que Freud mette au jour.
Je ne peux pas le dire parce que je suis un mec sérieux, mais ça vaudrait une étude. Et il y a une époque où j'avais eu l'envie d'essayer de faire une réédition de ces premiers textes sociologiques qui sont apparus contre la rationalité de l'économie politique. Hein, l'homo economicus est censé être rationnel et savoir ce qui se passe dans son crâne. Non, la sociologie est née contre cette idée. Donc qu'est-ce que fait Freud ?
Excusez-moi, mais ce serait important de le savoir.
Oui.
Parce que vous voyez bien le reproche qui vous est fait, là.
Oui.
Le reproche de Fourès. Bon, alors, quand Caroline Fourès parle de tendresse, on peut rigoler, parce que voilà, c'est pas vraiment une tendre. Mais en même temps...
Bon, là, on est au bord du ridicule.
Non, mais on est d'accord. Mais en même temps, pour tous ceux qui étaient dans cette manif, dans ces manifs, et j'y étais, j'étais dans la... Mais j'étais dans la manif parisienne. J'étais dans la manif. Je suis désolé.
On s'entend bien, il n'y a pas de problème.
Oui. Mais enfin, on peut comprendre que la plupart d'entre eux, quand ils vous entendent dire que voilà, en fait, ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils étaient là, qu'ils étaient mus par des forces inconscientes, qu'ils pensaient être là au nom de la liberté d'expression et de la tolérance, mais qu'en fait, c'était des mouvements qui exprimaient je ne sais quelle islamophobie, on peut comprendre que ça leur fasse drôle. Alors moi, ça me fait. Moi, je vais vous dire. Moi, la première fois que je vous ai entendu dire ça, moi, je suis tellement dans l'esprit 11 janvier que je me suis pas du tout senti insulté.
Ça, c'est très important.
Je me suis pas du tout senti insulté comme Fourest, etc. Mais je me suis dit, il se plante.
Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est exactement.
Il se plante complètement.
Ça,
tout.
Voilà. Alors, je veux dire, j'ai fait des interviews. Alors, je crois que c'était dans l'Humain Dimanche et sur le site Atlantico où je dis. Exactement ça, mais littéralement, je dis que d'où vient la fureur. Je dis, la fureur ne peut pas venir de ceux qui étaient là sincèrement et dont l'âme était pure, et que ceux-là ne peuvent simplement que trouver que je raconte des conneries et que je me plante. Exactement ça. Et donc je dis que la fureur vient d'ailleurs, la fureur vient de ceux qui éprouvent un sentiment de dévoilement de pulsions profondes. Donc j'admets tout à fait la pluralité des attitudes, particulièrement dans la manifestation parisienne. Mmh. Alors là, je vous supplie d'aller regarder les textes, c'est imprimé. Mmh.
– Alors la manif parisienne par exemple, parce qu'il y a une autre chose… –
Mais si vous voulez, la manif… –
Une autre chose que dit Fourest, c'est de dire, voilà, il a regardé la province, etc., mais Paris.
– Paris,
alors… – Le cœur de ce fameux bassin parisien. –
Alors si on va dans le livre, on va trouver, on ne va pas y arriver là, ça va être trop compliqué, on trouve des développements… extrêmement complexe et dubitatif sur la manifestation parisienne. Pour moi, ce qui a emporté...
– En quoi vous êtes dubitatif ? Sur la manif parisienne,
pour la raison que vous indiquez. C'est-à-dire, je me pose la question, est-ce que la manif parisienne... Alors, le facteur cadre supérieur ou cadre et profession supérieure joue à plein, puisque la ville, Paris, est la ville des cadres supérieurs. Donc, rien que ça aurait produit un taux élevé de manifestation. C'est leur monde, hein. Mais il y a ce problème à Paris, car Paris ne peut pas être accusé, hors du 16e arrondissement et d'autres endroits comme ça, d'être un lieu du catholicisme zombie. Donc j'ai des développements assez dubitatifs sur la pénétration.
Quand vous dites que vous avez des développements dubitatifs, ça veut dire en gros ça cadre pas avec votre vision générale.
Ça
vous emmerde.
J'évoque d'autres hypothèses. Alors je voudrais d'abord rappeler que dans les régions de la périphérie catholique zombie, ça marche très bien. Mais en fait, je pense, si je devais faire une critique de ce livre, ce que je ferai sans doute un jour, si vous regardez le moment dans le bouquin où je discute les chiffres, je dis, vraiment, j'ai péché par excès d'honnêteté. Donc à Paris, j'ai le choix, je dois faire le choix entre 1,5 et 2 millions de manifestants. Et je dis par bravade, par respect de l'adversaire, je vais prendre le chiffre le plus élevé. Et donc c'est un signe d'honnêteté. Depuis, j'ai discuté avec des statisticiens qui ont travaillé à titre privé et presque confidentiel sur l'ampleur de la manifestation parisienne, c'était beaucoup plus bas. C'est très très massif. C'était beaucoup plus bas.
En quoi ça vous laisse dubitatif, Paris ? Expliquez-moi. Et si ça vous laisse dubitatif, quelles sont les différentes hypothèses que vous faites ?
Ça va être long. J'ai des hypothèses sur des phénomènes de xénophobie universaliste dont on peut parler. Je veux dire, mais en tout cas, je me pose la question, je dirais, d'une diffusion par les classes supérieures de valeurs inégalitaires allant au-delà du simple privilège social, par surreprésentation dans la population qui a fait des études supérieures des gens d'origine catholique zombie. Il y a toutes sortes d'hypothèses. Et en fait, la conclusion sur Paris dans le livre...
Je comprends pas. Vous disiez précisément qu'à part le 16e arrondissement, Paris n'était pas catho.
Je pose des questions. Je vais vous dire, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre et l'une des raisons pour lesquelles j'ai refusé de m'exprimer au moment des événements, en dehors du fait que... on m'aurait dit de fermer ma gueule, j'aurais été accusé d'apologie de je ne sais quoi, c'est qu'il y a des séquences logiques et d'explications scientifiques qui ne peuvent pas passer sur un plateau de télé. Il y a quelquefois un niveau de complexité du raisonnement et de la réflexion qui ne passe pas. Et là, on y est. Vous voyez, on y est. C'est-à-dire que, je ne peux pas résumer en deux.
C'est pas une échappatoire un peu facile, ça.
Absolument
pas. Pour éviter de traiter un exemple qui, effectivement, contredit votre lecture générale.
Non, je ne crois pas. Je veux dire, là, vous êtes. C'est comme si vous me disiez, alors quand même, la culture écrite, c'est de la merde. Mais si, je veux dire, le livre existe. Oui, le livre existe. On écrit des livres, il y a des gens qui écrivent des livres. C'est plutôt mon métier.
J'ai pas vu l'explication sur Paris dans le livre.
Ah, bah alors vous avez pas lu, parce que vraiment, il y a même un paragraphe qui s'appelle le mystère de Paris.
C'est un mystère.
C'est un mystère avec des hypothèses. D'accord. Mais je voudrais dire que je continue à chercher, et il est vraisemblable, après cette discussion avec statisticien compétent, j'ai fait tourner la régression multiple à l'envers.
Pouvez juste répéter ça. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai fait tourner la régression multiple à l'envers. Là, vous m'avez perdu.
C'est-à-dire, vous avez un ensemble de données. Vous avez un ensemble de données. Et à partir de ces données, vous définissez des lois qui vous permettent, à partir de la proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures, de la proportion d'ouvriers et de l'imprégnation catholique zombie, de prévoir ce que devrait être le niveau, l'intensité de la manifestation. Vous avez certaines équations. Donc, je me suis amusé, si on peut dire, ayant défini cette loi pour l'ensemble des données, sauf Paris, à calculer ce qu'aurait été la valeur attendue pour Paris, en fait.
Et donc
sans tenir compte de l'imprégnation religieuse. On arrive à 1,3 million d'habitants. Et les estimations basses de ces gens qui ont travaillé étaient 1,3. Donc il est vraisemblable que l'effet cadre supérieur et profession intellectuelle, etc., absence d'ouvriers, suffit à expliquer l'ampleur de la manifestation parisienne. Mais si vous voulez, je suis vraiment un chercheur, si vous voulez. Je veux dire, la recherche continue et j'aurai très certainement l'occasion d'écrire une postface d'ici quelques mois pour une réédition dans laquelle j'expliquerai tout ça.
Ce que dit Le Guen sur l'angoisse, la haine de soi, qui seraient les
D'abord, connaissant Le Guen, je veux dire, l'idée de Le Guen angoissé est quand même assez plaisante, parce que ça n'est pas quelqu'un que j'imagine ravagé par le doute, l'angoisse et je dirais.
Non, mais il parle de vous.
Il parle de son angoisse. Il parle de son angoisse.
Ah oui, vous l'avez angoissé. Voilà. Oui.
Alors,
mais la haine de soi,
alors,
c'est vous.
J'aime pas, je veux dire, de façon générale, il ne faut rien en tirer, mais j'aime pas trop l'expression haine de soi parce que les connotations qui sont derrière ne sont pas jolies. Généralement, ce qui vient, c'est haine de soi juive. Et j'aime pas. Si c'est ça, c'est comme ça que c'est employé d'habitude et je n'aime pas entendre cette expression. Ah, vous me demandez, je vous dis. J'avais pas fait de commentaire.
Vous êtes à deux doigts de l'accuser d'antisémitisme.
Mais non, pas du tout. Pas du tout. Vous me demandez absolument pas. Je dis que j'étais surpris de voir appliquer à mon propos l'expression de haine de soi, car je n'éprouve aucune haine de moi-même en tant que Français d'origine juive, en tant que Français d'origine bretonne, en tant que Français d'origine anglaise, vous voyez. Donc j'ai trouvé ça. Je veux dire, cette notion de haine de soi m'a énormément surpris.
Alors, il y a autre chose qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand vous parlez de vos travaux et quand vous parlez de vous, vous parlez volontiers de votre ascendance, de votre, de votre généalogie, qui est effectivement une généalogie très compliquée, on va dire.
Comme beaucoup de Français.
comme beaucoup de Français, mais peut-être un peu plus atypique, on va dire, entre le britannique, le juif, le je ne sais quoi. Le breton, tout ça. Ça se mélange.
Ce que je peux faire de plus authentiquement français et breton, en fait.
D'accord. Voilà. Et donc, catho-zombie.
En fait, oui, mais avec transition communiste.
Donc, il y a du catho-zombie avec transition communiste.
Oui. De toute façon, je veux dire, il y a des trucs absurdes. C'est les gens, pour moi, l'expression catholique zombie qui fait tellement hurler les gens ont l'air de s'imaginer que c'est une grosse insulte. C'est un concept qu'on avait défini avec Le Braz dans notre précédent bouquin, qui s'appelle Le mystère français, et dans lequel on avait noté que les régions de tradition catholique fraîchement déchristianisées se portaient mieux socialement, en termes de dynamique éducative, etc., que les anciennes régions déchristianisées. À l'époque, tout le monde était ravi. Tout le monde était ravi. Et puis, de toute façon, maintenant, je suis dans une situation impossible.
Regardez, vous plongez la vie dans des abîmes de perplexité, parce que vous les obligez à se demander si les catholiques sont des zombies. Vous voyez,
mais attention, pour moi, il faut bien voir, le catholique zombie n'est pas catholique.
Oui, on a bien compris.
Je n'ai aucun problème, si on peut dire, avec les catholiques pratiquants.
Non, mais ma question était, est-ce que vous pensez que votre ascendance est déterminante dans, alors, d'une part, ce que vous êtes devenu, et d'autre part, dans le contenu de vos travaux? Puisque finalement, si je vous comprends bien, l'ensemble de vos analyses conduit à dire que finalement les gens, notamment les manifestants du 11 janvier, sont aussi déterminés par le terroir auquel ils appartiennent, leur ascendance, tradition de leur région, plus que par les mots d'ordre qu'ils mettent eux-mêmes sur leur banderole. Ou au moins autant, j'en sais rien. Je voulais vous poser la même question s'agissant de vous, en fait.
Ah non, alors pour moi, ça ne dit rien, parce que je crois qu'il vaut mieux commencer par la théorie et ce qui est dans le livre. Il y a beaucoup de confusion. Les gens pensent que je parle en termes d'ascendance. En fait, j'essaye d'expliquer qu'un système familial, il y a des paragraphes assez sophistiqués du point de vue de l'analyse anthropologique, qui pour moi sont de la recherche de pointe dans le bouquin. Dans ce paragraphe, ou ce long paragraphe qui s'appelle « La mémoire des lieux », et où j'explique un système familial... ou d'un système de valeurs, le système familial, c'est pas les gens pensent système familial, quand je parle de système familial, ils s'imaginent, ils pensent tout de suite à leur ascendance, ils pensent toujours à leur généalogie.
Mais c'est quoi si c'est pas l'ascendance ?
Eh bien, c'est des familles sur un territoire. C'est-à-dire, un système familial, pour moi, c'est des familles qui sont sur un territoire et qui échangent des conjoints. Et la question qui est posée, et qui avait été posée dans ce bouquin qu'on avait fait avec Le Braz, Le mystère français, c'est pourquoi est-ce que les cultures régionales survivent alors que les populations sont très mobiles, alors que les gens bougent. Et la réponse à laquelle on était arrivé avec Hervé, je suis en désaccord politique total avec Hervé, c'est dire, ça nous libère de l'idéologie, hein. On n'était vraiment pas d'accord sur la politique, l'Europe et tous ces trucs-là. Et on ne serait pas d'accord maintenant. Mais donc, on a fini par comprendre que l'une des raisons pour lesquelles les territoires restaient homogènes dans des situations de migration rapide, c'est parce qu'ils étaient porteurs de valeurs, familiales ou autres d'ailleurs, faibles. Et que quand un individu bougeait, il s'adaptait, il prenait la couleur de son environnement. Quand un individu sortait, la même chose. Et que, d'une certaine façon, ce qui expliquait... C'est très important dans le bouquin, c'est la première fois que j'en parle. Ce qui explique la permanence des territoires et la solidité des systèmes de valeurs, c'est la fragilité de ces valeurs. Donc c'est le contraire d'un enfermement. Ça veut dire qu'une bonne partie des comportements des individus sont mimétiques et liés à l'environnement, mais en aucune manière, je dirais, enfoncés profondément en eux. C'est pour ça que quand on me dit des trucs, vous êtes... Vous voyez,
en même temps, vous comprenez qu'on se pose des questions individuelles. Oui, par exemple, qu'est-ce qui me détermine ? Qu'est-ce qui a fait que je suis allé manifester le 11 janvier ? C'est quoi ? C'est parce que je suis parisien ? C'est parce que je suis journaliste ? Parce que je suis issu de tel ou tel ascendant ?
Dans votre cas, il faudrait aller aussi, vous pourriez dire que vous y êtes allé dans une situation de réflexion et de doute extrêmement compliquée.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde ?
Non. Donc c'est un cas particulier. Moi, je suis sociologue, je ne suis pas psychologue. C'est la réalité. Vous l'avez écrit, donc c'est une évidence pour moi. Mais ça, on ne peut pas. C'est-à-dire que le boulot du sociologue ou l'historien, c'est de comprendre ce qui se passe sur un plan statistique par grande masse. C'est-à-dire être dans un modèle où il y a de la liberté humaine, il y a de la détermination. Et toute représentation de l'histoire ou la société qui basculerait dans l'absence complète de liberté ou l'absence complète de détermination serait absurde. C'est tout. C'est ce que ça, quand on dit qu'on a expliqué 50% de la variance, c'est ça qu'on dit simplement.
Juste qu'on revienne sur une image du dernier montage qu'on a vu, l'image d'Alain Finkielkraut sur le plateau de Paris 1ère.
Ah, les Inconnus.
Oui, les Inconnus. Alors, on voit qu'il a votre livre.
C'est bien. Ah, c'est génial.
Alors, sauf que l'émission est tournée le 4 mai et que votre livre est sorti le 7 mai. Vous lui avez envoyé ?
Je ne sais pas ce qu'a fait l'éditeur. Je crois qu'ils avaient envoyé des bouquins à Libération qui devait faire quelque chose et qui devait le faire mettre en lecture chez certaines personnes. C'est des hypothèses, je n'en sais rien.
Donc vous n'avez pas parlé avec le service de presse du Seuil.
Non, moi je
veux dire. En gros, vous voyez le sous-texte de ma question. En gros, c'est ce que vous avez essayé de provoquer un peu le buzz.
Honnêtement.
En envoyant le bouquin à quelques inconnus bien choisis.
Non. Je veux dire, il y a. Le Seuil est quand même la. Pour ce qui est des sciences humaines et l'histoire, le Seuil est la première maison d'édition en France.
Ce qui ne les empêche pas. Ce qui ne les empêche pas d'avoir envie.
Ça ne les empêche pas de connaître leur métier.
Voilà. Et d'avoir envie les livres à leur sortie.
Mais réellement,
connaissent un certain retentissement.
Comment?
Ça ne les empêche pas d'avoir envie que les livres connaissent le retentissement maximal, on va dire.
Oui. Et si vous voulez, les auteurs en sont en général contents. Mais je veux dire, entre ce qui se passe. Et la raison pour laquelle on a écrit un livre, il y a une différence. Je veux dire, moi, je suis très très fier de ce livre, mais pas du tout pour cette espèce d'écho. Je suis très content, qu'il se vende bien, je suis très content, voilà. Mais la chose dont je suis fier fondamentalement, c'est d'abord d'avoir réussi à me taire au moment où ça n'aurait servi à rien de parler. Vous voyez, parce que c'était trop compliqué, parce que j'aurais pas pu expliquer des raisonnements, parce que j'avais besoin de m'appuyer sur quelque chose de plus substantiel qu'une interview rapide dans la presse.
Ce qui est la différence d'ailleurs entre le scientifique que vous êtes et les journalistes, parce que nous, par exemple, ici à Arrêt sur Image, je pense que dès le 8 ou 9 janvier, je ne sais pas si vous en souvenez, mais on a publié une contribution d'internaute d'ailleurs, qui était originellement dans le forum et qu'on a. Publié sur le site, quelqu'un qui disait « Je ne suis pas Charlie et croyez-moi, je suis aussi triste que vous ».
Mais il y a des gens… –
Et qui expliquait pourquoi, on était le 8 janvier.
– Mais il y a des gens… –
Et c'est le papier de toute l'histoire du site d'Arrêt sur Image qui a fait la plus forte audience.
– chacun fait ce qu'il peut. Je veux dire, des types, je crois que Lordon et Badiou ont fait des papiers dans Le Monde extrêmement courageux. À l'époque, je ne faisais rien du tout. Je donnais des interviews à la presse japonaise pour me… je veux dire, puisque je suis Mirima au Japon, donc j'avais les Japonais étaient d'accord avec moi d'ailleurs, voilà. Donc c'est.
Mais vous donniez des interviews sur Charlie.
J'ai donné trois interviews sur Charlie dans la presse japonaise. Ouais. Ça me faisait du bien de parler à des Japonais.
Mais parce que les médias français vous les demandaient pas ou parce que délibérément.
Tout le monde m'en demandait, mais je pensais que ça ne servira à rien, que ça ne serait pas entendu. Donc je suis extrêmement fier de ne pas avoir cédé à la tentation de commencer à exprimer sans aucune justification ce que je sentais. Et je dois dire, c'est à titre moral et intellectuel, je suis très fier d'avoir résisté, d'avoir travaillé, d'avoir été capable d'écrire en 30 jours après avoir fait une analyse statistique avec un informaticien et statisticien compétent, très compétent, ce bouquin. J'ai une sorte de fierté d'avoir tenu le coup et d'avoir fait mon devoir à la fois de citoyen, de scientifique. Je me sens, je veux dire, je sais qu'on n'a plus le droit de dire ça, mais on aurait dit au sens religieux, je me sens justifié. Et donc ma fierté et mon contentement fondamental est là.
Parfait. Alors, vous êtes fait allumer, on a vu un échantillon, vous êtes fait parfois allumer aussi sur les plateaux en votre présence, allumer, on va voir, c'était le cas notamment dans le studio de France Inter avec Patrick Cohen.
Pour vous, critiquer l'islam ou dessiner Mahomet, par principe, c'est xénophobe et ça devrait être interdit, c'est ce que vous écrivez.
Non, absolument.
Ah si, vous l'écrivez. Blasphémer de manière répétitive et systématique Mahomet, personnage central de la religion d'un groupe faible et déterminé, devrait être qualifié d'incitation à la haine.
J'attendais un truc comme ça, donc j'ai amené une photocopie de la page 233 de mon livre, les conclusions et ce qu'il faut faire. Donc il y a un paragraphe, c'est le projet de réconciliation. Entre Français de toutes origines.
La phrase que je viens de dire, elle figure dans votre livre.
Je vous donne la conclusion. Oui. Alors, sur le droit au blasphème, sur le droit au blasphème. Petit a, le droit au blasphème est absolu. B, petit b, les citoyens français, musulmans ou non, qui considèrent que blasphémer sur la religion d'un groupe dominé est inutile et lâche, ont le droit de le dire sans être accusés, ni d'apologie du terrorisme, ce qu'a fait Machine Forest l'autre jour chez vous, ni de ne pas être de bons Français.
Caroline. Non, mais j'ai lu ce que vous venez de dire. C'est le contraire de ce que vous dites dans l'introduction.
Non,
pardon.
Mais non,
vous dites blasphémer devrait être qualifié d'incitation à la haine. C'est écrit page 15.
Mais en l'occurrence, c'est une incitation à la haine. Je donne les conclusions. Je suis dans une optique de pacification.
En fait, la citation de Cohen est tronquée parce que c'est blasphémer de façon répétitive et systématique. Donc, il y a l'idée du quantitatif.
Ouais. Cela dit...
Ah, moi, je suis statisticien, le quantitatif est...
Emmanuel Todd, cela dit, sur le fond, il a raison. Il a raison.
Non.
La page 15 est en contradiction avec la page 23.
Il y a l'idée de répétitif.
Oui.
Il y a l'idée de répétitif. Il y a l'idée de campagne.
Ouais.
Vous voyez, blasphémer une fois de temps en temps, c'est une chose.
Ouais.
Je veux dire, faire du blasphème anti-musulman son métier, c'est autre chose.
D'accord.
Quand même.
D'accord. Et vous avez le sentiment que Charlie Hebdo, avant les attentats, était un journal qui blasphémait de façon répétitive et systématique.
Oui, tout à fait, oui. Évidemment. Et de toute façon, qui n'arrivait d'ailleurs à se vendre qu'en faisant ça. Et je sais pas. De toute façon, si vous voulez, toutes ces...
Alors, c'est ce qu'on vous répond. Il y a eu très très peu, et c'est vrai quand on regarde les couvertures de Charlie Hebdo dans la durée, si vous voulez, il y a eu très très peu, statistiquement, de couverture sur le...
Alors écoutez, l'intégrisme, je veux dire, comme c'est un truc qui vient... Alors là on est reparti, pour moi, on est reparti dans la routine. J'ai eu droit, je prévoyais que j'aurais droit à Canal+. Enfin, ils ont été assez sympas, les gens de Canal+, l'autre jour. Mais il y avait cette question-là, je l'avais prévue. Et donc, j'avais demandé à mon copain Olivier Berruyer du site Les Crises de mettre, je veux dire, la liste, la sélection de ses couvertures, etc., pour que les gens puissent voir ce dont il s'agissait. Alors, mais il faut bien voir.
Alors, c'est là. Ah non, on va regarder.
Ah, vous avez bien travaillé.
Mais on essaye. Alors, on va regarder, c'est là. Donc, voilà ce papier d'Olivier Berruyer.
Non, c'est les photos que je vois.
Elles arrivent. Donc, qui passe en revue. Alors, ce qu'on voit déjà, alors attendez, si Adèle Bello peut s'arrêter un peu, ce qu'on voit déjà, c'est qu'effectivement, ce qu'a collecté Olivier Berruyer pour montrer le systématisme des blasphèmes de Charlie Hebdo sur l'islam, ce ne sont pas seulement des couvertures. Ce sont aussi des caricatures parues en page intérieure.
Est-ce qu'on est censé voir seulement la couverture d'un...
Non, on est bien d'accord que ça n'a pas le même impact si c'est en couverture et si c'est en page intérieure. Non ?
Non, mais là vous êtes
Spinaille.
En train...
Spinaille
êtes... Je pense un peu que vous ne voulez pas voir la vérité et surtout ne pas accepter le fait que Charlie Hebdo était... Alors, de toute façon, je vais vous dire, franchement, se foutre de la gueule des rabbins et des curés dans un monde déchristianisé, je ne trouve pas ça très classe non plus. Donc, pour moi, ça ne rachète rien. Mais surtout, ne pas vouloir voir que, en termes de tirage effectif, si vous multipliez les images et les couvertures par le tirage effectif des numéros concernés, vous obtenez tout à fait cette spécialisation de Charlie Hebdo dans l'islamophobie.
Attendez,
ça s'appelle l'analyse de contenu.
Emmanuel Todd,
on quantifie, on multiplie par le nombre de lecteurs.
Non, mais l'analyse de contenu, c'est ce qu'on fait ici tous les jours, si vous voulez.
Sociologique.
Mais vous parlez de tirage. Je veux dire, avant le 7 janvier, Charlie Hebdo, c'est un truc qui tire à 20 000 exemplaires ou 25 000 exemplaires. Ouais. C'est-à-dire, c'est rien.
Oui.
Bon.
Ah, sauf quand ils font une belle horreur mahométane en couverture.
Et la plupart. Alors, effectivement, dans les.
Ça vous donne pas envie de vomir ?
Si, ça oui. Ça,
enfin,
oui.
Vraiment.
Non, mais ça oui.
Des Français sont descendus dans la rue pour dire que la priorité de la société française, c'était de faire des trucs comme ça. Ils ont le droit de le faire. Ce qui me choque, c'est pas eux finalement, c'est que des Français se soient mobilisés pour défendre ça, appelés à manifester par un gouvernement. Enfin, écoutez,
Emmanuel,
le monde rit de nous, la planète rit de nous.
Non, la planète rit pas de nous.
Mais bien sûr que si. C'est pour ça que j'ai mis une poésie en anglais au début pour rappeler aux Français qu'ils ne sont pas tous seuls au monde. Mon bouquin s'ouvre par une poésie ou la dernière strophe d'une poésie de William Blake, The Divine Image, une magnifique poésie sur le divin dans l'homme, etc. Mais je veux dire, les Français aussi ne se rendent pas compte. J'ai l'air d'être un cow-boy solitaire, d'une sorte de Lucky Luke, anti-Charlie, etc. Ici. Mais dès que je sors de France, ou en dehors peut-être de l'Europe du Nord protestante...
Non mais vous rigolez, tout Hollywood était Charlie.
Mais c'est fini, c'est terminé.
Obama était Charlie.
Mais à l'époque, ils ne savaient pas, c'est fini.
Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas ?
Mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Le numéro de la survie...
Le
numéro de la survie du 14 janvier a été boycotté par la planète entière. Je veux dire, la France, je ne dirais pas ridiculiser, les gens étaient très gênés. Je veux dire, j'avais...
Il y a 15 jours encore, un prix littéraire a été accordé aux
États-Unis. Il y a des débats, la société américaine... la presse américaine n'a pas voulu reproduire cette... Je veux dire la messe est dite pour parler religieux.
Et c'était bien.
Que quoi?
Mais que la presse américaine refuse.
La presse américaine apparemment est
de reproduire les caricatures.
Apparemment sur ces questions-là, sur ces questions de d'obscénité religieuse utile ou pas utile, il y a une partie de moi-même qui doit être plus proche en termes de sensibilité d'un certain type de laïcité anglo-saxonne tolérante. C'est-à-dire, moi, je reviens d'une... Je suis assez, en fait...
Laïcité anglo-saxonne ? Laïcité anglo-saxonne ?
Tolérante.
Dans un pays où le président prête serment sur la Bible quand il est élu ?
Oui, mais je veux dire... je ne parle pas de l'ensemble de la population. Je dis, le rapport... Ouais. Je veux dire, il y a des gens qui... Je veux dire, il y a même une majorité de gens qui ne croient pas en Dieu... dans les pays de tradition anglo-américaine, mais l'espèce d'anticléricalisme, athéisme virulent, comme on en a maintenant en France, n'est pas dans la tradition américaine. La poésie de Blake, c'est très drôle, d'ailleurs, cette poésie, elle date de 1789, c'est un peu un hasard, mais Blake était un personnage tout à fait étonnant, dessinateur, poète. C'est un type qui avait vu l'arrivée de la Révolution française tout à fait favorablement. C'est un type qui a donné l'un de ses hymnes officieux à l'Angleterre.
Alors je la lis dans votre traduction, telle figure sur en ouverture.
Ah, ça me fait plaisir, vraiment ça me fait plaisir.
Aimons donc tous la forme humaine dans le païen, le turc, le juif ou loge, pardon, amour, pitié. Dieu se trouve aussi.
Oui, ben voilà.
Traduction Emmanuel Todd.
Voilà. Et donc, je ne sais pas comment dire l'attitude. Je crois que ce que j'essaye de faire comprendre là et ce que j'essaie de faire sentir en citant Blake, c'est... moi, je suis tout à fait sceptique religieusement. Je n'ai aucune croyance religieuse. Pour moi, je le dis dans le livre, l'inexistence de Dieu est très, très vraisemblable. Mais dire ça, c'est une chose... Et dire que toutes les religions sont haïssables, c'est autre chose. Je peux dire ça et être respectueux de la croyance d'autrui. Et dire que finalement, peut-être que les gens qui croient en Dieu, moi je peux pas, mais puis il faut pas qu'il y en ait trop, parce que ça serait étouffant. Mais ceux qui croient en Dieu, j'aurais tendance à dire, peut-être ils ont une certaine forme de chance. Vous voyez. Et quand je vois apparaître en France, je pense en fait que l'attitude laïque radicale socialiste de la pacification d'après la séparation de l'Église et d'État est assez proche de mon attitude actuelle. Les gens ne se disaient pas athées, les gens ne pensaient pas à cette époque-là que c'était vraiment super important d'affirmer l'inexistence de Dieu. Ça, c'est l'athéisme revendiqué, affirmer l'inexistence de Dieu, c'est un truc de période de crise métaphysique et révolutionnaire. Il y a eu des gens comme ça pendant la Révolution. Robespierre n'était pas trop pour. C'est le bolchevisme, vous voyez. Et l'un des trucs un peu effrayants en France actuellement, c'est de trouver des gens qui sans arrêt vous disent « Moi, je suis athée, moi, je suis athée, moi, je suis athée, je vais vous démontrer l'inexistence de Dieu. » C'est le signe de ce que ça ne va pas. Et c'est dans les classes moyennes françaises. La grande thèse du bouquin, c'est que la crise religieuse, la vraie crise religieuse de la France, ce n'est pas ce qui se passe dans un islam très fragmenté sur la périphérie, c'est ce qui se passe dans des classes moyennes qui n'ont plus de foi, qui n'ont plus de projet, dont le veau d'or de Maastricht. Vous voyez, c'est une analyse sociologique complète. Mais je prends la religion au sérieux. Mais si on parle de mon attitude personnelle, je suis totalement incroyant, mais je trouve que... et je dis à la fin que je pense que le destin de la France et le bon équilibre pour la France, c'est d'assumer un scepticisme religieux aimable, mais en foutant la paix aux gens qui ont peut-être la chance de croire à quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment...
Pour terminer juste avec une petite controverse sur la couverture de Charlie, là, le quota de couverture de Charlie, celle dont vous avez dit qu'elle vous faisait vomir...
Je suis pas le seul.
Est la seule de son espèce dont on puisse dire, tout au long des dernières années, qu'elle soit purement islamophobe, xénophobe.
Écoutez,
Et même berruyé sur son site Les Crises a péniblement trouvé 10 caricatures.
Écoutez, vraiment, si on peut, comment dire, on peut dire tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est circulaire. C'est pas le sujet de mon livre, en fait. Je parle très peu, ou pas du tout même, de Charlie Hebdo. pour moi, le massacre est horrible. Moi aussi, je connaissais des gens là-bas. Moi aussi, j'étais en état de choc quand ça s'est produit. Le style de ma famille, c'est plutôt de fermer sa gueule quand on est ému. Je l'ai déjà dit ailleurs. Vous pouvez plutôt une collection de cette phrase dite ailleurs. On peut jouer à ce qu'on veut, etc. Mais le sujet du livre, ce n'est pas ça. Je ne pense
non,
pas.
Non, mais j'ai bien
la question, et surtout, moi, je travaille sur ces questions d'arabophobie, d'islamophobie depuis des années. J'ai écrit en 1994 un livre qui s'appelle « Destin des immigrés ». J'ai suivi, je suis parti de l'arabophobie des milieux populaires qui était liée à des problèmes de cohabitation anthropologique, de mœurs, etc., dans les banlieues, etc. Et puis j'ai vu se répandre une islamophobie des classes moyennes. On regarde, il n'y a qu'à regarder, c'est pas Charlie Hebdo qu'il faut regarder finalement, c'est Le Point, où j'ai vu la façon dont le journal Marianne a totalement dégénéré sur ces concepts, dont j'étais proche à une époque. Donc nier, je trouve que nier la diffusion d'une certaine forme ou de diverses formes d'islamophobie dans les classes moyennes, dans les 10 ou 15 dernières années, ça me paraît, je veux dire, aller contre le bon sens. Et ça n'a rien à voir avec Charlie. Au stade actuel, j'en discutais avec des copains, et toujours dans l'esprit d'une recherche, je pense que ce qui serait utile, ça serait de commencer à définir des échelles d'islamophobie. Ouais. Islamophobie de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4.
Personne ne pense à nier.
Et je suis désolé, et le numéro du 14 janvier, vous donnez des couvertures. Le numéro du 14 janvier, qui est sorti.
Le fameux numéro des survivants. Oui.
Voilà, je veux dire, on a eu droit, de nouveau, avec le patronage de l'État français, après une magnifique manif sous protection de la police, à une caricature de Mahomet en forme de bite. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce que vous êtes simplement conscient de
ce... Alors, on la voit là, il y a une controverse. Hein.
Mais non, mais pas du tout. J'ai cité un article de...
controverse.
Mais non.
Mais si, il y a une controverse.
Mais
il y a une controverse. Luz dit, j'ai jamais... Luz, le dessinateur, dit, j'ai jamais voulu dessiner une bite.
Bon, voilà. Eh bien, il faudrait qu'il contrôle mieux son inconscient.
Voilà. Encore une fois, le...
Non, mais le... Moi, j'ai prouvé, comme je voulais objectiver le truc, quand j'ai mentionné cette couverture, j'ai cité le papier du Figaro interviewant plusieurs spécialistes de l'analyse des images.
De quoi? De la bite?
Sur la signification.
Non, mais enfin, il n'y a pas de spécialiste.
Voilà, mais
on la voit ou on ne la voit pas. Je veux dire, si on a envie de la voir, on la voit. Si on n'a pas envie de la voir, on ne la voit pas. Voilà. Apparemment, vous avez envie de la voir.
Je dois être un obsédé sexuel sur le tard.
Oui, alors voilà.
Voilà, bon, écoutez, bon, voilà. Je suis sûr que j'aurai la France avec moi. Est-ce que je pourrais dire un mot quand même
mais surtout,
pour recentrer, parce que là, on est en train de... s'enfermer.
Pardon, avant de quitter Charlie Hebdo, je voulais vous montrer qu'ils ont accueilli votre livre comme ils le méritaient. Je ne sais pas si vous avez vu la double page qui vous est consacrée.
Oui, c'est très bien.
Je pense que c'est la première fois que les dessinateurs de Charlie essayaient de vous dessiner.
Oui, c'est très élégant.
Je ne sais pas si c'est ressemblant.
C'est à vous de juger, moi. C'est vrai, on ne se connaît pas soi-même.
C'est pas terrible. Hein. Au niveau purement de la caricature. Comment vous réagissez
Je trouve que... Moi, de toute façon, je pense... Moi, je suis un fan du vieux Charlie Hebdo. C'est-à-dire, moi, j'étais un fan absolu de Reiser.
Ah non, mais alors ça pourrait être du vieux Charlie Hebdo, ça.
Pas du tout.
Ah bon?
Vous imaginez Reiser faire des trucs aussi nuls? Arrêtez.
Oui, si. J'imagine très bien dans les couvertures auxquelles on a...
Je voudrais quand même...
Alors, recentrons.
Parce que là, on est en train de partir... Finalement, on est en train de repartir en boucle dans le début du livre. Le livre, c'est pas ça. La structure du livre, c'est pas ça. C'est, on part d'une analyse de la manifestation qui a une structure sociale et géographique tout à fait reconnaissable. On retrouve la distribution avec ses facteurs classe moyenne supérieure d'une part, et puis empreinte catholique zombie d'autre part. On retrouve la structure du vote oui à Maastricht. Ça renvoie à toute l'histoire de la vieille droite française. Et à ce stade, la manifestation n'est plus qu'une clé d'entrée sur la réalité du système social français et du système de domination sociale. Et peut-être que pour moi, le cœur le plus important du bouquin est là, avec la définition du bloc MAS, c'est-à-dire classe moyenne, personnes âgées, catholiques zombies. Et il s'agit d'essayer de comprendre, à partir de la structure de cette manifestation, qui renvoie par isomorphisme à toutes sortes de structures analogues dans le passé, il s'agit de comprendre le blocage égoïste de la société française. Il s'agit de comprendre pourquoi la société française est bloquée par ses classes moyennes et laisse pourrir sa périphérie. C'est ça le sujet du livre, en fait.
Précisément, c'est sûr. C'est là-dessus que je voudrais terminer l'émission, parce que c'est le point que j'ai trouvé le plus intéressant dans votre livre.
Donc vous voulez terminer rapidement sur le centre du livre.
Je sais pas, c'est le défendre
quand même.
Oui, c'est le centre.
C'est le cœur du livre.
Mais je n'ai pas dit rapidement, j'ai dit terminer.
Ah d'accord, très
bien. On va terminer, mais on a tout le temps.
On a tout le temps, d'accord.
Non, simplement, parce que c'est le point que j'ai trouvé le plus juste. Moi, sur tous les autres, je vous avoue que vous ne m'avez pas convaincu. Mmh. Je veux dire, la peinture que vous faites de ces manifestations ne correspond pas à la manif dans laquelle moi j'ai été, aux gens avec qui j'ai parlé. J'y suis allé franchement en m'attendant à trouver avoir des débordements islamophobes, des gens qui faisaient la tronche, de la hargne et de l'agressivité. J'en ai pas vu un gramme. Mmh. J'ai vu au contraire des gens tolérants. Enfin, j'ai vu un truc incroyable, quoi, que je m'attendais pas du tout à. Voilà. Donc, permettez que c'est gentil. Je ne sois pas convaincu. Alors, en revanche, il y a
vous avez tout à fait le droit de penser que vous êtes un homme bon.
je vais essayer de continuer à le penser. Il y a un point que je trouve très intéressant, c'est ce que vous dites sur l'imprégnation mutuelle l'interaction de la droite catholique zombie et du Parti socialiste.
Ouais.
Alors, je voudrais qu'on vous entende le dire d'abord avant d'en parler.
Les gens de gauche comme moi ont cru que ce qui se passait, c'était une conquête des régions catholiques, des terres catholiques par la gauche. Mais ce que je vois maintenant, c'est que c'est ce catholicisme zombie, c'est-à-dire ces habitudes catholiques de respect de la hiérarchie, de préférence pour l'inégalité, qui ont conquis la gauche à travers le Parti socialiste.
Alors ça, d'abord c'est la première fois que j'entends ça.
Ouais.
Et évidemment, ça m'a intéressé parce que je suis comme tout le monde, c'est-à-dire et j'imagine comme vous qui croyiez ferme en 2012 à l'avènement d'un hollandisme révolutionnaire. Ah si, en 2012, si.
Pour moi, c'est comme repartir sur les caricatures de Charlie Hebdo. Avançons.
Donc, en 2012, vous aviez fait le pari pascalien du hollandisme révolutionnaire, etc. Puis,
je voulais être débarrassé de Sarkozy.
Et vous pensiez que ça pouvait marcher.
On ne pouvait pas avoir l'un sans l'autre. Hein.
Et puis, on est là depuis 2012, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, pourquoi le PS fait aussi obstinément d'abord une politique, on va dire, maastrichtienne et ensuite une politique. C'est la première fois que je lis une hypothèse qui est il y a une explication possible qui est que au lieu que ce soit le PS qui ait conquis les terres bretonnes catholiques de droite, c'est la droite catholique qui a conquis le PS.
Oui, pour moi c'est ma dette envers François Hollande. C'est des questions que je me pose depuis longtemps, mais j'avais toujours une sorte de doute parce qu'en fait cette pénétration des terres catholiques de l'Ouest, je l'étudie depuis 1981, en fait. Avec Le Braz, on avait fait un premier bouquin qui s'appelait « L'invention de la France » et on avait fait du commentaire électoral lors de l'élection de Mitterrand. Et déjà, la percée du PS dans les terres catholiques était un phénomène très important. Donc, on est dans la longue durée.
Bah – Non, mais là, vous dites, c'est le contraire, en fait. C'est une percée des catholiques.
– Mais il m'a fallu calculer le nombre d'années, de 1981 jusqu'à François Hollande, pour comprendre que vraisemblablement, c'était le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire les valeurs de hiérarchie, d'obéissance, d'austérité, de masochisme, du vieux catholicisme avaient fini par dominer la gauche, et la gauche est une droite en quelque sorte. Pour moi, c'est une vraie dette envers François Hollande. C'est une vraie dette, voilà.
– Alors qu'est-ce que vous avez dit? Obéissance, masochisme ?–
Oui, mais
on peut énumérer, obéissance, masochisme ?–
Manque d'intérêt pour la valeur d'égalité. Et voilà, donc on peut. Et puis probablement
Mais ça se traduit comment? Ça se traduit quoi? Aujourd'hui, par exemple, dans la sociologie de la direction du Parti Socialiste ou dans la sociologie des membres du gouvernement, par exemple?
Absolument, mais regardez, donc je donne l'exemple de François Hollande pour donner un exemple, avec un père catholique d'extrême droite, une maman. Catholique de gauche ou quelque chose d'approchant. Je donne cet exemple parce qu'il est une illustration. Mais bien évidemment, la démonstration.
Que Hollande est mu est déterminé par le fait que son père est un catholique d'extrême droite.
Je dis, j'ai fait quelque chose.
Comprenez bien qu'on puisse vous lire comme ça, de cette manière-là.
C'est un exemple, c'est une illustration. Quand on est président de la République, on s'expose à de l'analyse externe. Je n'ai pas fait ça sur d'autres individus. Vous voyez ? Et puis, encore une fois, il faut redevenir sociologue, il faut revenir aux masses statistiques. Il y a cet effet de pénétration. Et quand vous regardez, en fait, quand même l'histoire de France depuis... La dynamique de l'histoire de France depuis le milieu des années 60, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette croissance du PS sur les terres catholiques, c'est la destruction du PC, c'est la CFDT, plutôt la déconfessionnalisation de la CFTC qui devient la CFDT. Il y a un élément de dynamisme implicite, je dirais, dans ce processus de déchristianisation, puisque des gens qui échappent à une contrainte religieuse. Donc ça a été la partie créative de la gauche, c'est la deuxième gauche. C'est ce monde-là qui a eu l'idée de Maastricht. C'est pas les gens de droite qui ont eu l'idée de Maastricht. Je veux dire, ils ont suivi.
Il a bien fallu qu'ils votent aussi pour.
Mais je dirais, l'aile marchande de l'européisme maastrichtien, le cœur dynamique, le cœur pensant, c'était le PS. Voilà. Et je suis arrivé au bout de ça. Et ça permet d'expliquer le détraquage complet du système politique français. J'ai d'autres cartes que celle de la manifestation dans le livre. Il y a ces cartes qui montrent que l'implantation du PS est d'autant plus forte que dans les systèmes familiaux traditionnels des régions, la valeur d'égalité est la plus faible. Puis avec le détraquage inverse, qui est celui d'une droite, j'aimerais savoir ce que les gens de droite pensent de mon livre, en fait. On ne les entend pas beaucoup, parce que je fais le diagnostic inverse et curieux d'une droite, que ce soit l'UMP ou le Front National, qui est, je dirais, préférentiellement implanté dans des régions de tradition égalitaire. On peut comprendre pourquoi ils sont détrinqués aussi. Donc c'est, au final, c'est quand même un bouquin d'analyse sociologique.
– Alors il y a deux explications effectivement, quand on cherche l'explication au fait que comme ça le Parti Socialiste à chacun de ses passages au pouvoir fasse globalement une politique de droite, il y a l'explication par les militants et les dirigeants qui est la vôtre, et il y a une autre explication possible par, on va dire, leur électorat, qui est une explication que donnait sur notre plateau il y a quelques semaines à votre place, Pierre Joxe. Je voudrais qu'on l'écoute.
– Une partie de l'opinion française se détache de l'intérêt pour, comment dire, ça a l'air bête, je veux dire, pour les pauvres. Je veux dire, historiquement, il y a toujours eu des inégalités dans la société française comme les autres, avec des gens plus riches, des gens moins riches. Mais en France, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est accru de façon fantastique depuis quelques années. Ignoble, immonde. Obscène. Bon. Pour qu'il y ait une majorité pour une politique sociale, il faut que les classes moyennes se sentent solidaires des plus pauvres.
Oui.
Si les classes moyennes ne se sentent pas solidaires des plus pauvres, ne se sentent plus solidaires des plus pauvres, se sentent pratiquement pas même de la même culture, de la même nation, ils se sentent solidaires de qui ? Des moins pauvres. Et si en plus il y a un ministre qui dit j'appelle les jeunes Français à rêver d'être milliardaires, le rêve d'être milliardaire, c'est exactement l'inverse du rêve démocratique et solidaire.
Magnifique.
Non, mais pas tout à fait ce que vous dites, vous.
Exactement.
Mais à la limite, on peut penser que ça se rejoint. Et que c'est la poule et l'œuf.
Non,
mais
c'est la même chose. Il parlait.
C'est l'électorat ou c'est les dirigeants ?
Mais c'est une masse. Et puis, de toute façon, on est encore dans un système politique où les gens sont élus. La démocratie fonctionne mal, mais il y a des élections avec des taux d'abstention très forts dans les milieux populaires. Les classes moyennes dominent le système politique. Les gens âgés aussi dominent le système politique, puisque l'âge médian du corps électoral, ces 50 ans, les gens qui sont au pouvoir sont élus, donc il n'y a pas tellement de raisons à chercher à les opposer. Mais je trouve que ce que Joxe se dit sur, en fait, l'égoïsme des classes moyennes et recoupe d'une façon fantastique l'axe du livre. Puisque finalement, si on se débarrasse de tous ces débats sur l'islamophobie, de tous les débats techniques, etc., qu'est-ce que c'est pour moi que Charlie, en fait, la façon dont j'ai vu au final Charlie. Vous avez l'irruption du tragique dans l'histoire de France. C'est-à-dire, sortent des banlieues, des types se revendiquant d'une religion qu'ils ne connaissent même pas, l'islam, et puis ça se multiplie, et on sent que la périphérie de la société française, la périphérie ou le bas, on dit, est en train de pourrir. Alors d'un côté, vous allez avoir du terrorisme islamiste, de l'autre, vous avez l'électorat du Front National, du côté de la population. Et puis vous avez des classes moyennes, le bloc masse, dont j'analyse dans le bouquin les privilèges, qui est tout d'un coup surpris par un choc, par cette irruption de l'horreur. Parce que c'est une horreur. Et la façon dont je vois fondamentalement cette manifestation, au-delà de tout ce que j'ai dit, c'est on se serre tous ensemble, unanimes, ces classes moyennes privilégiées, pour protéger notre rêve, affirmer que nos valeurs de liberté, d'égalité, de droit de caricature sont belles et bonnes. Mais en fait, le message latent, c'est pas ça. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que la liberté et l'égalité dans une république qui ne s'occupe que de la moitié de sa population ? Qu'est-ce que c'est, en fait ? En fait, le message subliminal de cette manifestation, dont l'ampleur évoquait un certain type d'unanimité, mais l'unanimité des classes moyennes, c'est de dire « Ah non, on voit bien que ça pourrit autour, que ça devient dangereux, qu'il y a de l'islamo, qu'il y a des problèmes avec des musulmans dans les banlieues, qu'il y a de on n'a pas trop parlé de l'antisémitisme, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais moi j'étais très choqué par la façon dont l'hypercachère a été traité comme secondaire. Et nous, nous sommes là, les classes moyennes, nous sommes merveilleuses, nous croyons en la liberté, nous croyons en l'égalité, mais nous ne voulons pas entendre parler de la liberté et de l'égalité réelle. C'est ce dont parlait Jacques, c'est-à-dire de l'égalité appliquée à l'autre moitié de la société française. Donc je trouve que ce que je dis recoupe tout à fait ce qu'il disait.
C'est pour ça que je vous ai passé l'extrait.
Oui.
On a tout dit ?
Je ne sais pas. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et dont j'ai du mal à parler, plutôt à, sur lequel j'ai du mal à m'exprimer en détail, c'est cette question de la dialectique, de l'interaction entre l'islamophobie et l'antisémitisme. J'ai vraiment essayé de faire passer la compréhension de... le livre plaide fondamentalement pour un accommodement avec l'islam, et je dirais que je suis à ce niveau dans mon rôle habituel de... Il y a des blagues où je faisais des blagues sur moi-même disant « Mais oui, je suis l'intellectuel organique des gosses d'origine maghrébine, ou à l'époque où je me fritais avec Sarkozy, des choses comme ça. » Et je ne suis pas sorti de ce rôle, d'une certaine manière. Mais je crois que ce qui m'a donné la force, l'énergie d'écrire ce livre, qui était vraiment une épreuve physique pour moi, ça a été le truc de l'hypercachère. C'est-à-dire que j'ai fait partie de ces Français optimistes qui pensaient, je l'avais d'ailleurs déjà exprimé dans la mention de la France, que le retour de l'antisémitisme en France n'était pas possible. J'ai un peu vécu comme un imbécile heureux sur ce plan. J'ai encaissé l'affaire Merah comme un malheureux accident. J'ai commencé à avoir des doutes avec l'histoire du musée juif de Bruxelles. Tout ça commis par des Français d'origine maghrébine. Et en fait, avec l'hypercachère, j'ai craqué. C'est-à-dire que j'ai admis ce que d'autres avaient vu bien avant moi et que j'avais du mal à accepter, c'est-à-dire la diffusion de l'antisémitisme dans une partie des populations jeunes d'origine maghrébine des banlieues. J'ai accepté ce fait. Simplement, j'en ai fait autre chose. C'est-à-dire que le truc qui tombe sous le sens, en fait, le truc d'évidence, c'est quand vous êtes dans une atmosphère islamophobe qui se répand, en particulier dans les classes moyennes, et arabophobe dans les vies populaires, vous dites pas bah, une preuve de plus de ce qu'il y a un problème avec l'islam. J'ai essayé d'aller plus loin et de démonter, je dirais dans le livre, l'interaction perverse qu'il y a entre la montée de l'islamophobie et la montée de l'antisémitisme.
– Alors comment on peut l'appeler cette interaction ?–
Eh bien, je veux dire, les mécanismes… Non, bah d'abord, il y a un truc qui tombe sous le sens, c'est que si vous êtes dans une société où une passion religieuse ou anti-religieuse augmente, vous aurez toutes les passions anti-religieuses qui vont monter. Donc il est évident que toute accentuation de l'islamophobie va aboutir à une accentuation de l'antisémitisme. C'est pour ça que je suis très en colère. Je suis très en colère que les gens qui se réclament, qui se disent athées, défenseurs de la République et qui se disent menacés par l'islam et qui font de l'islam un problème qu'il n'est pas, je suis très en colère qu'ils fassent semblant de ne pas voir qu'en fait, ils mettent les Juifs en danger. Les Juifs pratiquants en danger.
Vous êtes aujourd'hui à peu près le seul en France à dire ce que vous dites. C'est-à-dire l'ambiance du débat idéologique en France est plutôt dans la concurrence victimaire.
Je dirais que là.
Plutôt que dans le fait de dire qu'elles se nourrissent l'une l'autre.
Je dirais que je ne suis pas mécontent d'avoir exécuté de façon terminale le PS comme un parti de droite. Mais la vraie motivation et le vrai message du livre, c'est de dire attention. L'interaction, je dirais, n'est pas ce que vous croyez. Et c'est très, très difficile à faire passer. Vous voulez que je vous donne un exemple de la façon dont c'est difficile à faire passer? Donc, vous savez que je suis en conflit permanent avec Le Monde, qui passe son temps à me faire des farces. à sortir des articles complètement absurdes. Bon, voilà, mais c'est ça. Mais j'en reçois un coup de fil un jour de Raphaël Baquet, avec qui je suis en très bon terme.
C'était journaliste au Monde.
Oui. Journaliste au Monde. C'était au moment où le Monde allait servir de Pravda néo-républicaine, dans lequel ils intégreraient l'attaque de Manuel Valls contre moi. Et je veux dire, elle vient à la maison. Je lui dis, je suis désolé, c'est dégueulasse chez moi, j'aurais pas le temps de faire le ménage. Enfin, vous voyez l'ambiance. Donc, amicale. Et puis, elle me fait mon interview. Donc, ce qui sort est un portrait pas du tout antipathique. Donc, je suis là, une sorte de vieillard facétieux qui aime faire des farces, qui vient d'une famille très bourgeoise. Très curieusement, d'ailleurs, la famille est définie comme athée, ce qui n'a pas... Je ne sais pas d'où elle a sorti ça. Mais la réalité...
C'est titré Emmanuel Todd, homme de tumulte.
Voilà, c'est ça. Donc, le vieillard facétieux, voilà. Quoi qu'il ait fait de bonnes études, ayant écrit des livres intéressants, le portrait est extrêmement sympathique. Mais ce qui ne sort pas, c'est que j'ai passé une demi-heure à lui expliquer que pour la première fois de ma vie, j'étais inquiet de la montée de l'antisémitisme et que pour la première fois de ma vie, je me sentais juif et j'avais écrit un livre en tant que juif, essayant d'avertir à quelque chose. Rien dans l'article. C'est tout à fait extraordinaire, vous voyez, tout à fait extraordinaire. Zappé.
Bah, en même temps, c'est pas évident, si vous voulez, dans l'habillage du livre, on sait pas que c'est un livre qui est écrit par un juif en tant que juif.
Et
pour alerter sur la montée de l'antisémitisme.
Regardez.
C'est dans le livre.
Pourquoi est-ce que j'ai laissé pour la fin les Français musulmans? Le chapitre 5, l'analyse de l'islam. Le livre est construit, je commence par les classes moyennes, c'est dans les classes moyennes qu'est la crise religieuse, j'étudie le déclin de l'égalité, et ensuite je passe à la périphérie martyrisée, donc j'ai un chapitre sur les Français d'extrême droite, et le dernier chapitre sur les Français musulmans. Il commence comment ? Peu de temps avant qu'il ne se suicide en 1941, Stefan Zweig avait évoqué dans ses mémoires le désarroi des Juifs regroupés par le nazisme en une catégorie qui n'avait plus de sens pour eux. Le chapitre sur les musulmans commence par une citation d'une page de Stefan Zweig. Et l'analyse de l'endogamie, de l'exogamie, du destin des Juifs et des musulmans en France est complètement entremêlée. Comment ne pas voir que c'est aussi un livre sur l'antisémitisme ?
Quelles sont, selon vous, les racines de ce... Alors, mis à part, effectivement, ce que vous dégagez là, c'est-à-dire que c'est l'islamophobie qui a nourri, c'est seulement l'islamophobie qui a nourri cette résurgence de l'antisémitisme, ou il y a autre chose ?
Non, il y a...
Vous savez bien à quoi je pense. Le fait que l'antisémitisme, aujourd'hui, se soit nourri de l'antisionisme et de la critique radicale de la politique israélienne parmi ce qu'on appelle les jeunes des banlieues. Voilà.
Oui, tous ces éléments existent, ouais. L'utilisation ouais. de symbolique existe, mais...
– Non mais c'est qu'une symbolique ?–
Ou de concept, disons, ça a une certaine importance, mais ça a été dit mille fois. Je veux dire, c'est ce qui est de l'ordre de l'évidence. Ce sur quoi...
– Mais que vous reconnaissez tout de même.
– Évidemment, d'accord. Mais je ne vais pas rappeler, le fait de faire un livre dans lequel on attire l'attention sur certaines dynamiques qui avaient échappé aux gens ne veut pas dire qu'on rejette tout ce qui n'est pas dans le livre. Bien évidemment.
Mais vous estimez que cet antisionisme a muté de manière définitive et radicale en antisémitisme.
Je dis que, c'est pas moi qui le dis, ça a été analysé. Ce que je dis, c'est qu'il y a avant ou à côté, ou surtout avant de s'intéresser à ce qui se passe très très loin au Moyen-Orient, si on veut étudier des phénomènes de pourrissement idéologique dans la société française, il faut s'intéresser à la dynamique de la société française elle-même, parce que c'est là que ça se résout. Si les gens sont heureux économiquement et à l'équilibre psychologiquement, il ne peut rien se passer de grave, quels que soient les symboles qui arrivent de l'extérieur. Et quand on analyse la société française actuelle, qu'est-ce qu'on voit ? On voit toutes les conditions qui avaient été réunies dans l'Allemagne d'avant le nazisme. Vous avez la combinaison d'une crise religieuse centrale, d'une perte de foi. C'est-à-dire avant le nazisme, entre 1880 et 1930, la croyance religieuse s'était effondrée dans toute la partie protestante de l'Allemagne. C'est là que Hitler avait fait toutes ses voix. Les régions catholiques pratiquantes, qui n'étaient pas zombies à l'époque, avaient beaucoup mieux résisté. Et ça s'était combiné, je dirais, à la crise de 1929. Donc, on a, l'équation magique pour obtenir un déchaînement de passions mauvaises, c'est la perte du sens religieux sur lequel on surimpose une crise économique et un mal-être, je dirais, matériel ou physique des populations. La France, on est sur un rythme plus lent, la population est plus âgée, on est beaucoup plus riche, l'État social tient, il y a de la sécu, il ne faut pas dramatiser. Et tout se passe sur un rythme plus lent. Mais ce qu'on a en France, c'est, j'alerte là-dessus, c'est pour ça que ça s'appelle sociologie d'une crise religieuse, on a une crise de foi, en fait, une crise métaphysique, exactement comme dans l'Allemagne des années 30, Dieu est mort, plus personne ne croit, et les Français n'en sont même pas conscients. Et veulent vivre avec l'idée que c'est formidable, etc. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une crise dans la partie centrale de la société, et dans ce monde, bizarrement, ou pas bizarrement du tout, dans cette France où plus personne, ou très peu de gens, en vérité, croient en Dieu, tout le monde se met à parler de religion. Donc il faut prendre conscience du fait qu'on est en état de crise métaphysique. Alors, le problème...
Mais ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a...
Mais ça veut dire qu'on cherche Dieu ?
Justement, laissez-moi terminer. C'est pour ça que je n'ai pas dit ça, et je ne pense pas qu'on puisse retrouver Dieu. Quand je dis accommodement avec l'islam, tolérance pour l'Église catholique, protestante ou tout ce qu'on veut, pour moi, on est à la marge. Je veux dire, justement, le domaine de la foi, de la croyance... est un domaine sur lequel on ne peut pas opérer. On ne peut pas. C'est-à-dire, en tout cas, je n'ai pas de message. Je ne suis pas prophète au sens fort du mot prophète. Ce qui est sûr, c'est que si vous prenez l'Allemagne des années 30, par exemple, vous avez le tissu de décomposition de la foi religieuse, on n'est jamais revenu dessus. C'est-à-dire, les Allemands n'ont pas retrouvé la foi. Mais s'il n'y avait eu que la perte de foi sans la crise économique des années 30, on n'aurait pas eu le nazisme. Et ce qu'on peut faire, c'est quand même des politiques économiques, des choix économiques intelligents et des choix de solidarité sociale intelligents qui apaisent la situation des gens et qui leur donnent le temps de retrouver leur équilibre religieux. Et actuellement, ce qui est en train de se passer avec les politiques, la France est totalement bloquée sur le plan économique. Tout le bas de la société est en train de pourrir parce qu'on ne peut plus faire de politique de relance, parce qu'on est encastré dans l'euro, etc. Et je dis qu'on ne peut rien sur le plan religieux. Moi, je prendrais la question du vide religieux plutôt plus au sérieux que l'économie. Mais le domaine dans lequel on peut agir, c'est l'économie. Et surtout, ne pas tomber dans le leurre, il faut choisir entre l'islamophobie et si on fait de l'islamophobie, on aura l'antisémitisme. Et toute personne qui fait de l'islamophobie, pour moi, doit se sentir responsable du fait qu'elle fait prendre des risques à la population d'origine juive.
– Alors, pour terminer, juste d'un mot sur l'économie, puisque c'est le domaine sur lequel on peut agir, dites-vous, vous aviez prophétisé, je pense, la fin de l'euro pour 2011, 2012 ? La prophétie, c'était quoi ? C'était début 2011 ?
Oui, c'est très intéressant, ça c'est bien, oui, je sens que ça va être bien comme réponse.
Alors ?
Eh bien justement, je veux dire, la vraie question, l'euro ne marche pas. La société française pourrit, elle produit…
Que vous estimiez qu'il faut sortir de l'euro, ça je l'ai bien compris, mais est-ce que vous estimez que de toute façon ça va se terminer ? Est-ce que vous pensez encore que de toute façon ça va se terminer comme ça ?
Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est le problème. Qui est Charlie ? Charlie, c'est cet être collectif, ces classes moyennes, fortement teintées de catholicisme zombie, qui considère que la société française actuelle est normale et qui n'éprouve pas le besoin, ainsi que le suggère Jox, de faire les choix économiques ou de chercher des solutions économiques qui permettent d'apaiser les souffrances de l'autre moitié de la société française. Donc la question en termes économiques, il va sous le sens qu'il faudrait sortir de l'euro. Mais la vraie question, ce n'est pas une question, tout le monde sait que l'euro a foiré. Je veux dire, toute la planète entière, on retombe sur ce truc, la planète entière, à l'exclusion des dirigeants français et d'une bonne partie des classes moyennes françaises, savent que l'euro a foiré. La vraie question est d'ordre sociologique et religieux, c'est pourquoi, comment une société peut, je veux dire, s'enfermer, ou des classes moyennes peuvent s'enfermer dans un tel égoïsme et ne pas bouger et ne pas sortir. C'est ça le phénomène Charlie. C'est vraiment pour ça.
Et continuer à voter pour des partis qui préconisent le maintien dans l'euro.
Et ça continue. Voilà. Et ça continue. Et la France va pourrir. Et il va y avoir de plus en plus de violence. Et il va y avoir de plus en plus d'islamophobie. Et il va y avoir de plus en plus d'antisémitisme. C'est ça le mystère Charlie. Qui est Charlie? Vous voyez, c'est ça.
Merci beaucoup pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, la question qui est Charlie. Et je vous dis à la semaine prochaine.